Alors, les prophétesses dans la Bible. Là, une toute petite partie. Donc, il y a Sarah, la femme d'Abraham, Rebecca, Myriam, la sœur de Moïse, Déborah, Holda, Anne, la mère de Samuel, hein, qui a reçu que elle aurait un enfant, Samuel, un grand prophète, Judith, Élisabeth, Anne, la fille de Phanuel, Marie, mère de Dieu, forcément, puis on peut ajouter les filles de Philippe, diacre, voilà, il y en a partout, des femmes prophètes. Ça, c'est 10 prophétesses recensées par je ne sais plus quel saint dans les premiers siècles, mais en fait, il y en a plein d'autres, si on ouvre la Bible, il y a Esther, il y a Ruth, ça devait être une prophétesse, hein, là, voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de récits qui sont laconiques, donc on a du mal à avoir des prophétesses, on voit juste une femme, quoi, et donc faut creuser un peu. Je passe sur le grand 2, l'itinéraire prophétique, ou le grand 3, on va dire, l'itinéraire prophétique de Myriam, la sœur de Moïse. Alors, ce que je propose, c'est de prendre des extraits de sa vie et d'en dégager des choses. Plutôt que de faire un plan transversal, je me dis, se mettre à l'écoute du récit biblique, c'est quand même pas mal, parce que on chemine petit à petit, et c'est la manière dont le Seigneur fait avec nous, on lit la Bible, et puis il y a des choses qui nous apparaissent. Alors, Myriam, elle vint au monde 10 ou 12 ans avant son frère Moïse, hein, donc c'est sa sœur aînée. Alors, on ne sait pas s'ils avaient d'autres frères et sœurs, je ne me rappelle plus, je crois pas. Dans les antiquités bibliques, Joseph, donc, qui est un historien extra-biblique, dit qu'elle aurait épousé Hur, un de ceux qui soutenaient les bras de Moïse pendant la bataille contre les Amalécites. Mais on ne lui connaît pas d'enfant. C'est-à-dire que Moïse, vous savez, c'est le symbole du combat absolu contre le mal, et il a besoin de ne pas être seul en tant que prêtre qui attire les grâces divines sur le peuple. Le mari de Myriam serait un de ceux qui était son bras droit, on va dire, grâce à qui il a gagné la bataille, quoi. Voilà. Saint Grégoire de Nice et Saint Ambroise disent que cette femme-là, Myriam, avait conservé une virginité perpétuelle. Alors, quand on trouve des choses comme ça, il faut les garder en tête, parce que il n'y a pas que la Bible qui est révélée. En fait, il y a un certain nombre de choses qui sont permises par le Seigneur, notamment des traditions, des vies de saints, ou ce que disent des historiens. C'est vraiment, souvent, c'est le Seigneur qui va donner des clés, parce que des gens étaient au courant de traditions orales de l'époque, ou disent j'ai l'intime conviction que, parce que même si c'était des mystiques, là, c'est quand même Grégoire de Nice et Ambroise, c'est pas n'importe qui. Elle aurait gardé une virginité perpétuelle. Donc, on a déjà là quelque chose qui montre que la virginité pour une femme, c'est quelque chose à rechercher, parce que c'est quelque chose qui va exacerber les grâces prophétiques pour une femme. Et donc, que veut dire être vierge? Ça veut dire peut-être trouver des moyens pour se donner entièrement à Dieu, c'est-à-dire faire en sorte que son cœur propre soit un temple parfait où la Trinité vient faire sa demeure. Voilà. Pour une femme, ça va être ça. C'est-à-dire évacuer les obstacles qui font qu'il y ait autre chose que le Seigneur dans notre cœur. Voilà. Pour un homme aussi, mais je dirais que pour une femme, ça va être encore plus marqué. Il va y avoir quelque chose de particulier pour une femme à veiller là-dessus, quoi. C'est sans rien faire d'autre dans sa vie que veiller là-dessus jalousement, c'est déjà une évangélisation pour beaucoup de femmes à leur propre insu, quoi. Donc ça, c'était Myriam d'une manière générale. Petit B. Je vais parler de quelques vocations célestes. J'avais fait une conférence sur les noms nouveaux, en disant que quand le Seigneur nous révélait une mission particulière, notre mission spirituelle, sur la terre, c'était une source de grande joie, parce que c'était une mission qu'on aurait aussi au ciel. On commence déjà sur la terre à exercer des choses pour aider les autres, pour consoler, qui va avoir un effet extrêmement fort, qui va avoir une efficacité redoutable, parce que c'est nous qui le faisons, parce que c'est notre point fort, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un nom nouveau. Voilà, comme quand Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, il dit à Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bah, ça a dû être une grande joie pour Pierre de se dire, le Seigneur fait de moi un roc sur lequel les autres peuvent s'appuyer pour devenir inébranlable eux aussi, parce que quand je vais venir et que je vais leur imposer les mains, je vais chasser des démons, je vais les confesser, je vais faire descendre le ciel sur la terre avec l'Eucharistie, et puis je vais éclairer toute l'église en étant le chef de l'église, etc. Voilà. Donc, on va tracer quelques vocations célestes comme ça qu'on trouve chez les femmes. Donc c'est Rashi, qui est un commentateur biblique connu, qui explique que les noms des sages-femmes, je ne sais pas si vous vous rappelez, Pharaon demande aux sages-femmes égyptiennes de tuer les enfants hébreux, de tuer les jeunes garçons hébreux, parce que les prophètes égyptiens savaient que il devait y naître un messie qui allait botter le train des Égyptiens, et donc il fallait éviter qu'il y ait un roi, quoi. C'est toujours l'acharnement du démon contre un éventuel messie qui va le détrôner. Et donc, appelle les sages-femmes en leur disant, bah maintenant, vous allez, à partir de maintenant, tuer tous les jeunes mâles hébreux. Et il est donné deux noms, Shifra et Pua. Et donc Rashi explique que les noms des sages-femmes mentionnés donc dans Exode 1 étaient les noms professionnels de Yokeved et de Myriam, c'est-à-dire la mère et la sœur de Moïse. Lui, il dit, voilà, pour moi, c'était la mère et la sœur de Moïse qui étaient sages-femmes. Et on dit que c'était les sages-femmes égyptiennes parce que c'était leur job en Égypte, en fait. C'était comme Daniel et ses frères qui avaient reçu des noms babyloniens, un peu comme si on leur avait donné un job en Babylone. Voilà, nous, c'est pareil. Hein. Moi, dans mon entreprise, on a ce qu'on appelle des trigrammes. Voilà, c'est un genre de code pour chaque salarié. C'est pas tout à fait nos initiales. On nous donne un nom particulier qui fait que ça va plus vite dans les rapports. Enfin, c'est vrai que c'est très pratique. Voilà, c'est une codification. Et donc, Yokeved, la mère de Myriam, elle était appelée Shifra. C'est le premier des deux noms des sages-femmes qui est donné. Shifra, parce qu'elle était experte dans l'art d'embellir. Embellir, c'est la même racine que Shifra, Shafar. Et dans l'art d'embellir et de laver le nouveau-né. La mère de Myriam avait sa vocation de femme, c'était d'embellir et de laver le nouveau-né, de faire en sorte qu'il soit beau. Voilà. Et on le voit parce que, si on réfléchit bien, c'est elle qui constitue la corbeille qui l'enduit de poids. On imagine que la petite corbeille en osier, elle devait être superbement faite. Et qu'elle a dû pomponner Moïse d'une manière telle que, déjà, il était beau à la naissance, il avait une beauté surnaturelle. Mais alors, la fille de Pharaon, elle a dû craquer en le voyant, quoi. Vous voyez? Et je pense que son charisme, enfin, en tout cas dans la Bible, dans le peu qu'il a raconté sur Yokeved, la mère de Myriam et de Moïse, bah, l'art d'embellir et de laver le nouveau-né, c'est quelque chose, voilà, ça devait être courant pour elle de s'occuper des petits et des, voilà. Alors après, on a Myriam, bien qu'elle fût encore une enfant, excellait dans l'art de murmurer. C'est la racine para, donc comme Poua, le nom de la deuxième sage-femme. Murmurer à l'oreille du nouveau-né et de calmer un bébé qui pleure avec sa douce voix. Parce qu'il est dit que dans la tradition juive, que les Égyptiens, ils faisaient exprès pour le décret infanticide de faire venir des enfants égyptiens et de les faire pleurer dans le camp des Hébreux pour que les enfants hébreux pleurent aussi. Vous voyez, parce qu'un bébé, il entend pleurer et puis... Voilà, c'est comme ça ils arrivaient à détecter les... Donc Myriam, elle avait le don d'arriver à calmer même les enfants qui étaient excités par les pleurs des autres, quoi. Voilà. Donc murmurer à l'oreille du nouveau-né. Et donc c'est quelque chose de très important parce que pour une femme, le murmure, c'est-à-dire la suggestion, l'art de donner une impulsion, c'est quelque chose qui est typiquement féminin. Et qui est hyper fort, qui est beaucoup plus fort que l'homme avec ses gros sabots qui va dire « Regardez, c'est moi le plus fort. » Et je ne dévalue pas l'homme, hein, parce que pour moi, je pense vraiment qu'il y a une alliance avec Dieu et l'humanité qui se déploie chez les hommes et chez les femmes, et il n'y a pas de supériorité de l'un ou l'autre. Il y a une supériorité sur certaines choses pour l'un et sur d'autres choses pour l'autre. Pour la femme, ça va plutôt être dans la suggestion. Voilà. On trouve par ailleurs que Rachel a été enterrée sur la route. Vous savez, cette femme, dans toute la lignée là, de toutes ces générations, c'est la seule qui n'a pas été enterrée dans la grotte de Macpéla, mais elle a été enterrée sur le bord de la route, là où elle était décédée, quoi. C'est très curieux, hein. Et en fait, Rachel, elle voulait rester proche de ses enfants en exil. Et dans toute la tradition juive, on reconnaît Rachel comme celle qui pleure, elle a le don des larmes. Hein. On peut imaginer peut-être que Marie-Madeleine descendait de Rachel. Parce que Rachel, dans toute la tradition juive, c'est celle qu'on prie parce qu'elle est capable d'intercéder devant Dieu pour n'importe quel enfant, parce qu'elle est proche de ses enfants en exil, de ses enfants qui sont en transit. Elle est enterrée sur le bord de la route, dans le fossé, sur le bord, enfin peut-être pas dans le fossé, mais sur le bord de la route. Et quand les enfants hébreux meurent au moment de la naissance de Jésus, persécutés par Hérode, il est dit, on entend les pleurs, c'est Rachel qui a perdu ses enfants parce qu'ils ne sont plus et elle ne veut pas être consolée. C'est une manière de dire, bah en gros, il n'y a plus rien à faire, mais il y a encore une chose à faire, c'est de confier à Rachel cette cause désespérée pour qu'il se passe quelque chose de grand, parce que cette femme, c'est celle qui a le don par excellence de faire pleuvoir la miséricorde divine tellement elle pleure au ciel. Elle est celle qui dont la mission céleste, c'est d'être... l'intercesseuse pour tous les enfants pour lesquels le cas est désespéré, quoi. Voilà. Voilà. D'après le Midrash, donc les traditions juives qui glosent sur Myriam, je reviens à Myriam, elle fut appelée Poua également, suite à un autre épisode, parce qu'elle dévoila donc dévoiler, c'est une racine qui est commune avec poids. Elle dévoila son visage avec aplomb devant Pharaon en disant « Malheur à cet homme, quand Dieu se vengera de lui ». C'est au moment où Pharaon avait décrété « On va tuer les enfants hébreux ». Et elle avait 6 ans à l'époque. Hein. Et donc elle a dévoilé son visage et elle a dit « Malheur à cet homme, Dieu se vengera de lui ». Alors Pharaon fut courroucé en entendant ces paroles et voulut la faire exécuter. Mais Jochebed, donc la mère de Myriam, l'apaisa en disant « Ne lui accordez pas d'attention, elle n'est qu'une enfant qui ne réalise pas à qui elle s'adresse, ni même ce qu'elle a dit ». Voilà, Myriam n'avait que 5 ans à ce moment, et malgré son âge tendre, elle tint tête au plus puissant souverain du monde, le réprimandant avec audace pour sa cruauté envers son peuple. Alors, Jochebed, elle a eu l'art d'embellir son enfant aux yeux de Pharaon, et de la rendre belle pour ne pas que Pharaon la tue. On retrouve cette vocation de cette mère, et Myriam, à l'inverse, je pense, on peut se dire, c'est un trait prophétique, c'est une grâce d'avoir parlé, en fait, moi je pense plutôt que, moi c'est comme ça que je le vois, mais je ne sais pas comment, après les Juifs, il prolonge cette réflexion-là, mais je pense qu'elle n'était pas à sa place en parlant de cette manière-là, parce qu'elle s'est attirée les foudres de Pharaon, en fait, un peu comme Élie qui a tué 450 prophètes de Baal, et puis il s'est pris dans la figure, spirituellement, si vous voulez, tous les démons qu'il avait chassés des prophètes de Baal. C'est comme s'il s'était attaqué par la force à quelque chose, là où Dieu lui disait « Mais c'est pas la tempête qui est importante, mon esprit est dans le murmure d'un fin silence ». Et en fait, il se retrouve complètement découragé, complètement par terre, parce qu'il a usé de la force. Et dans Zacharie, il est dit ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ça, c'est vraiment la phrase que doit retenir un prophète. Et surtout, une femme, c'est encore plus marqué, parce que la force n'est pas le domaine premier où elle excelle, à part les femmes qui vont au fitness tous les jours et qui font de la muscu pendant 3 heures, mais c'est pas forcément leur... ça les rend pas fortes spirituellement pour autant. Myriam a ôté son voile pour prophétiser contre Pharaon, et d'accord, elle a révélé ce qu'elle avait au fond du cœur dans une situation grave, mais c'est pas le moyen ordinaire, et en fait, en murmurant, en étant dans la suggestion, elle aurait peut-être trouvé le moyen de retourner Pharaon de la bonne manière. Et c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs, plus tard, au moment des 10 plaies d'Égypte. En réalité, elle a joué un rôle important à ce moment-là. On va le voir par la suite. Voilà, donc là c'était quelques vocations célestes, c'était pour montrer que chaque nom céleste avait une importance capitale, et c'était important de peut-être, de pour clore cette petite partie, de faire silence et de réfléchir aux grâces que le Seigneur a mises en nous, et comment on est plus avancé aujourd'hui qu'on ne l'était hier. Et Seigneur, quelles compétences me donnes-tu? Et en quoi je peux purifier cette compétence et m'en servir plus? Parce que c'est toi qui m'as donné cette compétence propre d'embellir le nouveau-né, ou de murmurer, ou d'intercéder pour ceux qui sont en exil, le nom des larmes. Parce que tu m'as donné de faire des merveilles avec cette grâce-là, faut peut-être que je m'en resserve, plutôt que de chercher à exercer des forces que je n'ai pas dans d'autres domaines qui ne sont pas mes domaines de compétences, là où d'autres sont meilleurs que moi, quoi. Voilà. C'est aussi de l'humilité.